Bonjour, c'est Nathalie Lévy. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast décliné de mon livre Courage au cœur et sac au dos aux éditions du Rocher, production Benjamin Vincent, Watch Audio. D'ailleurs, en passant, abonnez-vous, c'est gratuit. On va vivre ensemble une nouvelle belle histoire de transmission, de partage infini et d'entraide aussi. Vous allez voir. Bonjour Christine.
Bonjour Nathalie.
Bienvenue avec nous pour ce podcast, ce nouvel épisode. On va discuter ensemble pendant un moment et j'aimerais bien savoir qui vous êtes et ce que vous faites, vous, de votre quotidien.
Alors d'abord, je suis maman de 3 enfants et professionnellement, je suis intrapreneur au sein de BNP Paribas. J'ai imaginé et développé un service à destination des aidants de proches fragilisés par la maladie, le handicap ou le grand âge. Et aujourd'hui, Tilia, c'est un service avec des assistants personnels qui sont couplés à une application digitale disponible sur tablette et smartphone et qui doit simplifier, doit soulager les aidants au quotidien dans le maintien au domicile de leurs proches. Et surtout, l'idée, c'était de ne pas infantiliser nos proches. C'est-à-dire, quand je passais du temps à appeler ma grand-mère pour m'assurer que « Est-ce que l'infirmière est bien passée ? T'as bien eu tes médicaments ce matin ?»« Oui. » Qu'on rappelle, et le portage du plateau repas, « Est-ce que t'as bien été livrée ? Est-ce que t'as bien mangé ?» Et en fait, ça l'agaçait terriblement. Et donc, l'idée, c'est de pas se substituer et déposséder les aidants de leur rôle, mais simplement de leur donner un peu de souffle, de répit au quotidien, pour qu'à la fin de la journée, ils appellent leurs proches juste pour savoir si tout va bien, si, voilà, quelle émission de télé ils ont regardé, et juste réinverser la tendance et que les rapports restent sains, humains, parce que le rôle d'aidant est tellement... Voilà, c'est une charge, mais les aidants sont fiers d'être aidants. Voilà.
Alors Christine, de qui parle-t-on aujourd'hui ?
De ma mamie.
C'est qui votre mamie ?
Je réfléchissais hier en me disant aujourd'hui par rapport à votre interview, le podcast. Et je me suis fait très peur parce que je me suis rendu compte que j'oubliais plein de choses en fait. Et c'est ce qui me manque aujourd'hui terriblement. Voilà, ma grand-mère, c'était une femme qui s'occupait de ses 3 enfants, qui m'a apporté énormément, qui s'est occupé chaque été de moi et de mon frère. Et je me rends compte que j'ai gardé un certain nombre d'images, mais plein de choses ont disparu, en fait.
Christine, c'est un clin d'œil, vous nous le disiez, donc aujourd'hui à Mamie Gâteau, dont on ne connaît pas le prénom, Mamie Gâteau.
C'était Janine. Et d'ailleurs, elle est un peu parmi nous parce que je suis venue avec une de ses bagues. Et je trouve que c'est un petit clin d'œil. Voilà, j'aime bien la voir avec moi.
Ça, c'est récurrent ou c'est un supplément d'âme, là, aujourd'hui ?
Quand j'ai des rendez-vous, des choses importantes dans ma vie, en fait, je prends cette bague ou une autre que je... Voilà, c'est important.
Vous avez quel âge quand elle disparaît, votre grand-mère ?
C'était il y a 5 ans, j'avais 39 ans, donc juste avant mes 40 ans.
Vous allez voir, vous allez avoir plein de souvenirs qui vont revenir et puis qui sont inscrits en vous de toute façon. Cette mamie, vous l'appeliez comment ?
Mamie Gâteau.
Ah, ça nous donne déjà un indice.
Ouais, elle a été excellente pâtissière et alors après, elle faisait des pâtisseries qui avaient des noms. Du coup, je ne sais pas trop si c'était des inventions ou j'ai pas cherché, mais j'adorais ces pednones qui doivent ressembler plutôt à des bugnes. C'est beignet aux pommes, c'est tarte citron meringuée, donc elle m'a donné le goût de la cuisine.
Parce que du coup, vous y êtes mise aussi et vous...
Alors moi, pas les pâtisseries par contre, mais j'adore cuisiner, ouais.
Alors 39 ans, quand elle disparaît, vous êtes quand même une grande fille à ce moment-là. Comment vous qualifiez votre relation avec elle ? C'était parce que du coup, vous avez eu le temps quand même de bien bien la connaître, d'être très proche d'elle, donc d'être en vacances ensemble. Qu'est-ce que vous faisiez ensemble ?
Alors c'est simple, on habitait déjà à une dizaine de kilomètres et tous les dimanches, on allait en vélo chez ma grand-mère. Et c'est vrai qu'au moment de l'adolescence, quand bien souvent on se rebelle et que je m'imaginais partir, me disais, bah, j'irai chez papy et mamie et puis je serai très bien là-bas. Et du coup, bah, on faisait... Elle m'a initiée à la peinture, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mon activité professionnelle, j'ai plus du tout le temps de peindre, mais c'est quelque chose que... Voilà, j'ai ressorti mon chevalet il y a 3 jours. Et puis j'ai sorti sa boîte à peinture. Voilà. Et je me suis dit, c'est une façon aussi de la faire continuer de vivre. Mais je regrette, voilà, comme... toute absence, je regrette terriblement qu'on n'ait pas partagé encore plus, parce que quand on est ado, quand on est... et puis après, bah, me suis mariée à 25 ans, l'envie de liberté, de vivre sa vie, et c'est vrai qu'on a tendance un peu à oublier ses parents, ses grands-parents, et c'est qu'après qu'on se dit si on avait su, mais j'y étais quand même tous les dimanches, et puis chaque été, on passait un mois sur l'île de Léron avec mon papy et ma mamie. Voilà.
C'est formidable. Vous avez eu, elle vous a vu enceinte, elle vous a vu maman, elle a pu participer. Vous l'avez inclus dans ce ouais. dispositif. Comment comment ça se passait?
Bah, elle était très très fière justement d'être arrière grand-mère et puis bah j'ai accouché dans la ville où elle vivait. Mais j'aurais aimé, voilà, comme je pense qu'on est tous, on culpabilise tous quand on est aidant, de ne pas en faire encore plus, en fait. De pas encore... Et le temps n'est pas extensible, donc quoi, avec le recul, je me dis, ça aurait été compliqué d'être encore plus là, mais voilà, je regrette par exemple de ne pas avoir pris du temps pour rédiger avec elle, je sais pas, ses mémoires, d'avoir pris le temps de l'interviewer aussi et qu'elle me raconte en détail plein de choses. Et puis ben maintenant, c'est trop tard. Donc, j'essaye de grappiller des photos, des infos à mon père. Voilà. Je sais qu'elle était femme au foyer, qu'elle était couturière, qu'elle a travaillé dans une maison. Alors, je ne sais pas du coup laquelle, mais très rapidement. Mais elle était, voilà, elle était très douée pour ça. Elle était, comme moi, je pense, très créative et manuelle. Sauf qu'à une autre époque, bah, du coup... s'imposer le choix d'être maman, mère au foyer et puis à gérer sa maison, et elle le faisait très très bien. C'était une femme très coquette, très très belle, et jusqu'à la fin de ses jours, il n'y a que les derniers mois sur l'accompagnement de fin de vie qu'on a caché les miroirs. De toute façon, elle pouvait plus se lever, et donc du coup on a caché les miroirs pour pas qu'elle soit malheureuse de se voir dans cet état.
Quand vous dites aidante, vous l'avez été vous-même vous avez
non,
réussi
alors...
en tout cas à répondre à certains de ses besoins et de cette logistique aussi qu'il faut gérer quand on est aidant.
Alors je veux pas quoi. Faut la vérité, c'est que ce sont mes parents qui se sont épuisée à son chevet parce que effectivement j'étais en activité avec mes 3 enfants à gérer, beaucoup aidée par mon mari heureusement, mais et c'est vrai que mes parents étaient là jour et nuit à son chevet. On voulait tenir la promesse qu'on lui avait faite de qu'elle finisse ses jours dans sa maison, en fait. Et ça a été, maintenant que je suis plutôt sachante sur le sujet, qu'on côtoie des associations d'aidants, c'est une erreur, quoi, on m'a dit, c'est une erreur à pas commettre. Parce que c'est une promesse qui est très difficile à tenir. Alors, on l'a tenue. On a fait, ça a été l'hôpital à la maison. On a fait installer, mes parents ont fait installer un lit médicalisé. Tous les médecins, les infirmières qui passaient jour et nuit, qui se relayaient, mes parents également. Tel point que mon père... développer, on n'a jamais su trop quoi, un virus, mais du coup j'ai vu mes parents se ruiner leur propre santé pour tenir cette promesse, et psychologiquement c'est dur, et donc j'ai eu l'impression d'être finalement spectatrice et pas avoir fait assez encore. Voilà. Donc moi j'apportais de l'amour, de l'affection, et le jour où elle est partie, c'est la seule journée où on n'est pas passé la voir. Un mercredi, on passait le mercredi ou le samedi. Et pour le coup, c'est moi qui ai dit à ma maman, prends un peu de repos, viens, on va au zoo avec les enfants. Et elle est partie là. Et le médecin nous a dit, faut pas s'en vouloir, c'est justement qu'elle restait pour vous. Après, on y croit, on n'y croit pas. Mais elle restait pour vous et en fait, elle s'est sentie libérée ce jour-là où elle savait que finalement, vous veniez pas. Mais après, c'est un sacré poids parce que du coup, je m'en voulais d'avoir dit à ma mère de sortir, de penser un peu à elle. Et du coup, chaque jour, j'y pense. Et puis Tilia, le fait que d'avoir développé une société pour aider les aidants, accompagner les aidants, j'arrive pas à faire le deuil finalement parce que je pense tout le temps à elle. Tilia, c'est le nom scientifique du tilleul. Et en fait, je l'ai choisi parce qu'avec ma grand-mère, on passait beaucoup de temps dans la Sarthe. Ils avaient trois maisons, donc en Seine-Saint-Denis, dans la Sarthe et puis à Île-de-Léron. Et quand on était dans la Sarthe, il y avait un énorme tilleul. On passait du temps sous son arbre à préparer, à accueillir les feuilles et à préparer des tisanes, en fait. Et Tilia, comme ça, des vertus apaisantes. Et que Tilia, ça a une consonance aussi féminine et que les aidants sont majoritairement des femmes, faut dire ce qui est. C'était un bel hommage à ma grand-mère.
C'est un très bel hommage et vous vous souvenez de mille choses en fait, Christine.
Oui, mais je voudrais encore plus.
comment elle était quand vous étiez petite? Alors, elle vous préparait des gâteaux, vous faisiez plein de choses ensemble. Vous sentiez que vous aviez une place spéciale pour elle ou. C'était, elle donnait le même amour à tout le monde parce que vous avez quand même un lien particulier.
Alors, c'est vrai que j'aime pas dire que quand on a des enfants, j'en ai trois, mon dernier me dit toujours c'est qui que tu préfères? Je suis ton enfant préféré. Non, il n'y a pas de préférence. Il y a des affinités, des centres d'intérêt, des passions partagées, des caractères, voilà. Après, pour le coup, c'est vrai que j'avais le sentiment, comme on y était très très souvent, on était les plus proches, j'avais un peu le sentiment d'être dans ses préférés. On partageait plein de choses, puis on passait beaucoup de temps. On faisait des Scrabble, alors ça dure, des après-midi. Oui, on y était,
Et vous vous disiez quoi? Comment, parce que vous l'avez perçu, enfin en tout cas, même si vous n'osez pas trop l'assumer, peut-être cette préférence, parce qu'il ne faut pas gêner les autres, vous sentiez qu'elle vous parlait différemment à vous, ou vous étiez en mesure de lui dire d'autres choses?
Je pense que comme on était très présents et qu'on lui apportait aussi beaucoup, elle nous donnait beaucoup. Et donc, du coup, c'était un peu comme une seconde maman,
Et ça, votre maman, elle l'a ressenti?
Je sais pas, parce que, une mamie, ça remplace pas une maman, mais c'est plus fun, c'est moins, moins strict, Après, on parlait pas, je parlais pas de mes petits copains, je parlais pas... Voilà, il y a des sujets que je réservais à ma maman. Mais c'était une mamie hyper bienveillante, douce. Et puis hyper énergique, hyper... elle travaillait pas, mais je sais que quand mon père était petit, elle faisait la couture, elle habillait des pieds à la tête mon père et son frère et sa sœur. Très très manuelle et je pense que mon côté un peu créatif et puis mon goût pour toutes les activités manuelles, ça vient d'elle. Alors mon papy aussi, c'est pas l'objet ici du podcast, mais mon papy m'aidait à travailler le bois, donc du coup maintenant je retape des meubles, forcément le lien intergénérationnel c'est hyper important. Et avec mes enfants aujourd'hui, alors c'est vrai que 10 ans, 14 ans et 17 ans, 17 ans c'est compliqué, c'est d'aller chez les papy-mamies, mais je leur dis vous avez la chance d'avoir les 4 papy-mamies, donc faut vraiment, vous rendez pas compte, mais nourrissez-vous, ils ont plein de choses à transmettre. Et ça, c'est... je crois que c'est le rôle des papy-mamies d'apprendre, de donner. Du coup, elle me manque.
On voit ce qu'elle vous a apporté, vous nous l'avez dit. Est-ce que... la société aujourd'hui, parce que vous êtes très impliqué. Est-ce que d'ailleurs c'est cette disparition qui a déclenché chez vous cette volonté de monter Tilia ?
Alors ça a été un petit peu après. Voilà, il y a eu un programme d'intrapreneuriat au sein de BNP Paribas. Et dans le métier dans lequel j'étais, on a des clients peut-être un peu plus âgés que la moyenne. Et donc du coup, je me suis posé la question du parcours client, de comment on accompagne nos clients sur le bien vieillir. Et donc, couplé à mon expérience personnelle, c'était évident qu'il fallait proposer quelque chose, quoi. La banque doit aussi se renouveler. Moi, je pense qu'il faut aller sur du service au quotidien, extra-financier. Et donc du coup... ça ressurgit à un moment où j'étais en quête de sens, en fait, à me dire, tous ces mois passés sur sa fin de vie, où finalement, plutôt que d'être au bureau, j'aurais mieux fait d'être encore plus présente, aujourd'hui, il faut que je me rende utile, parce que je cherche du sens dans ce que je fais, à passer 40 ans, à quoi je sers, en fait, outre mes parents, mes enfants, ce que j'apporte à mon mari, mes parents, voilà. Et on parle, les aidants, ça a toujours été un sujet, mais là, c'était flagrant qu'il fallait y aller. Et l'intergénérationnel, on voit plein de choses, la cohabitation, les logements partagés, etc. C'est hyper important, quoi. Aujourd'hui, on fait de l'agisme, la société fait qu'on est vieux, on est à mettre au rebut et ça me dépasse, voilà.
C'est la responsabilité de qui ? C'est la responsabilité du gouvernement ou la responsabilité de la génération d'après, des enfants ou des petits-enfants, des individus en fait ?
Je n'ai pas réellement de réponse. Ce qui est sûr, c'est que je pense que là, le confinement a fait que les nouvelles générations sont plus humaines, sont peut-être plus solidaires et sont plus dans cet état d'esprit de chercher du sens, de ne pas être dans la... l'appât du gain de, quoi. Les gens qui postulent pour travailler chez Tilia me disent c'est le projet qui m'intéresse et c'est pas le salaire et c'est ce qu'il me faut aujourd'hui et j'espère que la société avec la nouvelle génération sera plus humaine et puis effectivement la société peut-être la société française, je sais pas, parce qu'il y a quand même, dans mon équipe, j'ai des personnes qui viennent du Maroc, de Tunisie, et qui me disent, mais attends, moi, c'est super, hein, Tilia, je suis super contente d'être là et de travailler avec toi, mais nous, chez nous, il n'y aurait pas besoin, parce que nos papis, ils vivent, nos mamies, elles vivent chez nous, avec nous, et donc je me dis qu'il y a quand même un sujet,
Quel rôle on donne aujourd'hui dans la société à nos anciens, aux seniors ?
Alors, je pense que en France, justement, quand on est âgé, quand on commence à avoir des rides, qu'on est grisonnant, on est stigmatisé et puis pas suffisamment valorisé. Je pense que on parlait du lien intergénérationnel, de la valorisation des parcours de vie. J'ai fait un voyage d'études au Japon, à Tokyo, et les personnes âgées dans leurs EHPAD au rez-de-chaussée, quand il y a des crèches, des maternelles, ils participent à la vie collective, en fait. On leur donne un vrai rôle. Là, ici, dès qu'on est un peu senior, et pour le coup, là, j'ai 44 ans, je suis professionnellement déjà senior. On se dit, quelle place on nous donne ? Quel rôle on veut nous faire jouer ?
Et en même temps, on va appeler un chat, Christine. Les seniors, ou en tout cas le quatrième âge, les anciens, ils sont plus rentables. Je me fais l'avocat du diable. Ils sont plus productifs. Alors, ils sont productifs sur le plan de la sensibilité, sur le plan de la transmission, sur le plan de l'aide, éventuellement de l'accompagnement. Donc, qu'est-ce qu'une société qui a besoin, évidemment, d'avoir une économie à peu près en état, qu'est-ce qu'elle peut espérer dans ce cas ? Qu'est-ce qu'elle peut attendre ?
Mais pour le coup, je suis vraiment pas d'accord parce que pendant le confinement, je continue d'être bénévole avec une association qui s'appelle Paris en compagnie, où on fait des appels de convivialité pour les personnes âgées isolées. Et j'ai des mamies, mais formidables, avec qui je passe des heures à parler, et qui me disent, Christine, si un jour vous venez me voir et que vous me sortez, parce que c'est ça aussi le but de l'association, c'est de pouvoir faire des sorties, amener au rendez-vous, etc. Et elle me dit, j'ai pas le physique de nos échanges, de mon cerveau, de ce que je vous dis, etc. Mais En fait, c'est ça, c'est qu'on nous met dans des cases et puis tout est ramené à l'apparence. Et ces dames sont d'une vivacité d'esprit, me disent des choses, quoi. C'est hyper intéressant. Et donc, ouais, non, je suis pas d'accord. C'est vraiment changer les mentalités.
Et vous pensez qu'on peut y arriver? Vous sentez que ça bouge?
J'espère bien. Oui, je pense que ça bouge, oui. Parce que justement, les nouvelles générations, je vois, il y a plein de start-up qui sortent. Mmh. Tout est issu d'un parcours de vie, de leur expérience, souvent avec leurs grands-parents.
Vous pensez qu'il y a une volonté politique derrière?
Bon, à mon niveau, je suis incapable de vous dire. En tout cas, c'est un enjeu économique. Et pour le coup, si ça doit faire bouger les choses, c'est pas sur le côté, effectivement, bienveillance, tous ces sujets un petit peu où j'ai l'air un peu d'être dans le monde des bisounours, mais économiquement, si je dois avoir un discours plus business, on peut pas faire autrement que de prendre en charge, quoi, on le voit bien avec la loi de financement de la cinquième branche de la dépendance, oui, on peut pas faire autrement. Un tiers de la population aura plus de 60 ans d'ici 2025. Donc comment on gère le sujet, quoi. C'est juste qu'à un moment donné, faut que tout le monde l'intègre. Hein. Donc c'est évident.
Un ou deux souvenirs comme ça, parce que votre frère, il a quel âge?
Mon frère a 5 ans de moins que moi. Donc,
d'accord. Donc vous avez fait un peu vous avez fait un peu les 400 coups ensemble dans le jardin des grands-parents. Enfin, vous avez vécu des aventures.
Mon frère était très très sage, très discret et du coup, ouais, pas de 400 coups. Et puis je crois qu'on était quoi. Non, quand on y allait, on était vraiment. Je repense à leur jardin. Oui, ça m'est arrivé d'aller dans les pavillons d'à côté, sonner à la porte des voisins et partir en courant. Bon, des petites bêtises comme ça, mais c'était vraiment soft. Hein. Et pour le coup, ils nous occupaient tellement, en fait, ils prenaient tellement soin de nous que j'ai pas eu le souvenir d'avoir été trouver des copains dans leur ruelle, en fait. On passait beaucoup de temps chez eux. Ils nous apportaient énormément. Et je pense que ce qui a fait... ce qu'on est devenu aujourd'hui, quoi. En tout cas, moi, je suis convaincue que grâce à eux, j'ai plein de choses, quoi. Il n'y a pas, voilà, un moment où mes parents me disent pas « Ah, bah ça, t'es comme mamie. Ah, ça, ah oui, c'est papy qui t'a appris ça. » Tout, le jardinage, la couture, les confitures. Voilà. Et maman, si, maman m'a quand même dit un jour « J'ai l'impression de t'avoir rien transmis, moi. » Mais parce qu'en fait, ma maman était aussi en activité professionnelle, comme je suis aujourd'hui, un rythme de dingue. Quand on habite à l'extérieur de Paris, les transports. Et donc, maman, bah, c'est vrai que voilà, c'était les devoirs, le manger, hop, au lit, et voilà. Et c'est vrai que bah, la transmission, c'est par les grands-parents. Voilà. Et c'est pour ça que moi j'attache beaucoup d'importance. On allait voir ma grand-mère avec mes enfants. Alors ils étaient petits, ça faisait de la jeunesse dans la maison. Et maintenant mes enfants, voilà, on y va aussi. Et c'est important, quoi. Et mes parents comme mes beaux-parents, je veux pas de différence. Ils doivent tous les aimer et c'est comme ça.
C'est très bien. Alors évidemment, il y a eu ce moment où vous avez 39 ans et où votre grand-mère disparaît. Vous nous l'avez dit, vous l'avez maintenue à domicile. Ça a été très lourd en termes de logistique, en termes de psychologique aussi. Donc si c'était à refaire, vous ne le referiez pas?
Alors j'aurais deux discours. Le discours de voilà, la dirigeante de Tilia, où je prône qu'effectivement les aidants doivent s'écouter, à défaut c'est leur propre santé qui va en pâtir, et parce qu'on s'oublie que quand on est aidant, bah, on est avant tout aimant et donc on fait abstraction mais complètement de soi. Et donc oui, aujourd'hui je dirais il faudrait pas le refaire. Mais au fond de mon cœur, et ben voilà, c'était la plus belle des morts pour elle, dans son lit, dans sa maison. Voilà.
C'est important, vous l'avez dit, 92% des gens veulent partir chez eux. Il y a quand même ce sujet aujourd'hui qui est sur la table, effectivement, de les maintenir à domicile. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les maintenir à domicile et que ce soit acceptable gérable pour la famille, pour les aidants ?
Il y a quand même aujourd'hui pas mal de dispositifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on manque cruellement d'auxiliaires de vie. Je sais que les partenaires avec lesquels on travaille aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à recruter, à garder dans l'emploi des professions de ce type. Mais moi, je me suis même posé la question, voilà, de dire plus tard, quoi, là, comment je pourrais me rendre encore plus utile ? Et ce lien, être sur le terrain, quoi, voilà, c'est des fourmis qui œuvrent au quotidien. Parce que quand aujourd'hui la moyenne distance entre un aidant et son proche, c'est 226 km, et qu'on n'est pas sur place, eh ben, qui vient au domicile ? Qui est présent tout le temps ? Eh ben, du coup, c'est les auxiliaires de vie, c'est les infirmières. Et donc, pour le coup, ça, ma grand-mère, à un moment donné, c'est idiot, hein, mais j'étais presque jalouse de son auxiliaire de vie. C'était une jeune femme qui avait 25 ans, qui s'appelait Cathy, qui était en galère, quoi. Du coup, à chaque fois que j'y allais, vraiment sur les derniers mois, elle me racontait, voilà, Cathy était tout pour elle à la fin. Et Cathy était là à l'enterrement de ma grand-mère. Et je me dis que oui, c'est pas les liens que du sang qui font que on peut attacher de l'amour, de l'importance aux gens. En tout cas, il y a une présence qui était importante pour ma grand-mère, et ma grand-mère était heureuse de l'avoir dans sa vie. Voilà. Donc il y a des choses à mettre en place. Après, il y a des résidences, des résidences seniors. Après, il faut juste se dire, parce que moi, j'en parle avec mes parents. Ma maman a moins de 70 ans et elle me dit, mais moi, je ne veux pas aller être avec plein d'autres personnes de mon âge. Ça va être triste. Et en fait, c'est juste que j'essaie de me projeter moi en me disant, mais plus tard, comment je voudrais finir ma vie ? Parce que c'est quand même des résidences adaptées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le maintien à domicile est compliqué parce que le domicile n'est pas du tout adapté. Les meubles sont trop hauts, les seuils de porte. Ma grand-mère, quand il a fallu mettre le lit médicalisé, qu'elle était dans son fauteuil roulant, le seuil de porte, il n'était pas adapté. Alors papa a décondé la porte, c'était système D, quoi. Et puis c'est une maison des années 60, l'escalier, on ne pouvait même pas installer un monte-escalier électrique. Une cata. Et donc du coup, ma grand-mère s'est, au fur et à mesure, enterrée dans sa maison, en fait. Très, très, très compliqué. Je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup d'anticipation. Il faut parler en amont des sujets avec ses parents, avec ses grands-parents, pour que ça ne soit pas subi, en fait. Aujourd'hui, quand on se dit, perte d'autonomie, c'est bien souvent une chute. Ma grand-mère, elle a chuté 3 fois avant, quoi, c'était la 3e fois, pour qu'il ait fallu qu'elle ait son médaillon et qu'elle enclenche le truc. La première fois, non, je ne le mets pas, elle n'a pas besoin. Elle est restée un petit bout de temps au sol, pouf, on l'a trouvée. Ok, ce n'était pas grave. Deuxième fois, c'est resté un peu plus longtemps. Là, elle s'est dit, faudrait peut-être que je le mette. Mais ça lui rappelait sans arrêt son âge, ça lui rappelait sa dépendance. Alors bon, il y a énormément à faire et c'est beaucoup de sujets psy, de sujets de... Voilà. Il y a tellement de choses, quoi. Donc à ma façon, j'essaye d'apporter ma pierre.
Et elle est importante, cette pierre. Ce rendez-vous ensemble, cette manière de à la fois d'évoquer votre grand-mère, d'évoquer aussi les besoins de la société pour demain, pour votre maman, pour nous, pour notre génération et puis pour la suite, ça vous fait quoi ?
Déjà, je suis super fière que vous me donniez la parole parce que effectivement, je suis une anonyme mais en même temps, ça me permet de faire un petit clin d'œil à ma grand-mère et comme j'aurais aimé écrire un livre pour elle, et ben du coup c'est très beau ce que vous faites et je trouve que c'est top parce que c'est important de garder et de faire vivre en fait nos anciens.
Merci de votre écoute et de votre fidélité à Courage au cœur et Sac au dos, le podcast. Hashtag CCSD sur Twitter pour échanger et dialoguer. Et si vous souhaitez prolonger ce moment, je vous rappelle que mon livre, Courage au cœur et Sac au dos, aux éditions du Rocher, est dans toutes les bonnes librairies. J'y raconte mon histoire, ma relation singulière avec Rosine, ma grand-mère, Merci à Benjamin Vincent, Watch Audio, pour la production, le partage et les bonnes ondes, bien sûr. Et puis rendez-vous très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre, une nouvelle belle histoire intergénérationnelle.